sur la trace des champions. Rugby Club Toulonnais, 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable. Un podcast de la rédaction des sports de Varmatin.
Je vous invite à écouter l'ovation qui salue l'entrée dans le stade des deux capitaines.
Vous souvenez-vous du 6 juin 1992, le jour où le RCT a remporté la finale du championnat de France de rugby. 30 ans après, Varmatin retrouve les hommes qui ont écrit l'épopée du bouclier de Brennus. Eux qui ont fait l'histoire du club.
C'est bien vu le diable, et ça passe.
En 1992, Thierry Louvet est un joueur confirmé au Rugby Club Toulonnais. Avec ses cheveux longs, le troisième ligne est surnommé l'Indien de la rade. Un homme, un physique rugueux qui compte sur le terrain. Mais cette saison-là, Thierry Louvet a perdu son mentor. L'entraîneur charismatique Daniel Herrero a quitté le club. Dans la relation avec le nouveau coach, Jean-Claude Ballator, l'Indien de la rade aura bien du mal à trouver sa place. Après un clash et une mise à l'écart, Thierry Louvet se révèle un lien précieux entre deux générations de joueurs, les anciens et les minots. Quand le navire est à la dérive, il reprend l'initiative et participe au nouveau départ. Thierry Louvet le raconte, il se raconte au micro de Pierrick Illic-Ruffinati.
Oh, une très grosse domination toulonnaise qui va se concrétiser par un essai.
Oh, c'est
joli.
En 10 épisodes, les journalistes des sports de Varmatin se replongent dans la folle aventure du sacre toulonnais. Thierry Louvet, l'Indien de la rade, le lien entre les générations.
Bonjour Thierry.
Salut.
Comment tu vas ?
Ben écoute, ça va. Ça va. Matin un peu compliqué, mais sinon ça va.
On était ce matin justement à l'enterrement de Loris Pedri, ancien président du RCT, mais on est ici pour parler d'une chose un peu plus positive. Ouais. Où est-ce que tu étais en 1992, là, comme ça, à brûle-pourpoint ?
À brûle-pourpoint, à cette date-là ou d'où le mois ?
Ah, un peu plus tard, dans un mois et demi.
Ben écoute, j'étais à un endroit qui nous a donné beaucoup, beaucoup de bonheur. Et c'était pour se préparer à une finale de championnat de France.
Justement, voilà, cette saison 92, on la connaît, on la reconnaît. Ça va faire 30 ans que vous êtes champion de France avec le RCT, avec une génération particulière. On va repartir du début. Le début de cette saison 91-92, c'est l'arrivée d'un nouveau président, l'arrivée d'un nouveau coach. Toi, à ce moment-là, tu as 29 ans, 30 ans. Est-ce que tu t'en rappelles à peu près de cette transition de cet été 91 ?
Oui, je me rappelle très bien, puisque la transition s'est faite quand même moyennement pour moi. Hein. C'est vrai que j'ai eu quelques petits problèmes, on va dire, relationnels avec l'entraîneur qui était venu remplacer Daniel.
Jean-Claude Ballator.
Jean-Claude. Et oui, effectivement, ça avait été un peu compliqué le début de saison.
Justement, à cette époque-là, il y a le départ de Daniel, qui est un peu le chef de meute d'une génération. Je pense à Eric Chambre, je pense à toi, je pense à peut-être même Melville. Enfin voilà, vous êtes plusieurs à avoir tout connu sous Daniel Herrero. Et là, vous voyez la bascule. Comment toi, tu apprends son départ ? Comment tu le vis ? Est-ce que c'est un coup dur pour toi ?
Ben, on apprend son départ. Bon, il nous le dit, hein, bien entendu. Et c'est compliqué parce que effectivement, on avait connu des choses extraordinaires avec le Daniel, le Bubard. Mais c'était aussi un petit peu avec la force des choses. Hein, quand on est presque 10 ans avec des hommes, ça devient un petit peu plus compliqué certainement les discours, dans les vestiaires, le relationnel. Mais effectivement, se séparer, c'était, oui, ça a été un coup dur un petit peu pour tout le monde. Ouais.
On aime dire que vous étiez les enfants pour certains de Daniel, qui vous avaient inculqué une façon de voir le rugby à son départ. Est-ce que tu imagines que cette saison peut se passer comme elle va se passer ?
Non, on n'imagine pas ça. Et puis effectivement, Daniel nous avait inculqué le rugby, mais il avait aussi inculqué d'autres choses. On avait vécu tellement de choses en dehors du rugby, grâce au rugby, qu'on a été effectivement les enfants du Bubard pour plein de raisons. Et pour revenir à cette saison, on n'imaginait pas, ben, surtout le début de saison qu'on fait, qui est catastrophique, donc on ne peut pas imaginer ça. On est sans lieu de ça.
Justement, comment tu apprends que ça va être Jean-Claude Ballator qui va prendre la suite de Daniel Herrero ? Est-ce que ça se passe bien entre vous ? Je crois pas que ça se passe super bien, justement. Raconte un peu tout ça.
Non, ben, ça se passe pas bien avec Jean-Claude. Hein. Moi, je suis plutôt un garçon un peu libre sur plein de choses. Et il arrive un entraîneur qui est plus carré, on peut dire ça, structuré, effectivement. Et pour moi, c'est compliqué, quoi, parce que je suis un peu sauvage, un peu tout ça. Et on avait un entraîneur qui était plutôt, j'ai fait un pas, une image, qui était plutôt une chemise ouverte, et on se retrouve avec un costard cravate. Donc, pour moi, personnellement, ouais, c'était compliqué. J'ai eu du mal un peu à me positionner, et les relations avec Jean-Claude au départ ont été plutôt tumultueuses.
Ouais. C'est quoi, c'est Jean-Claude qui n'arrive pas à t'appréhender, ou c'est Thierry qui a pas trop envie de te laisser?
Non, je crois que c'est les deux, tout simplement. Hein. Je pense, tu sais, après, quand tu as un entraîneur et que tu as été pendant 10 ans avec un entraîneur qui est complètement à l'opposé, et que toi, tu es plutôt comme ça, moi, effectivement, j'ai mis aussi certainement de la mauvaise foi, et puis j'ai mis du temps aussi à comprendre le personnage, et puis j'avais pas envie, enfin, en vérité, et comme Jean-Claude certainement a eu aussi du mal à m'appréhender et à savoir comment je fonctionnais, les relations humaines, elles sont comme ça, donc effectivement on a mis beaucoup beaucoup de temps. Ouais.
Il y a aussi le je vais mettre des grosses guillemets, mais le conflit entre les frères Herrero à ce moment-là, entre André qui prend la présidence, Daniel qui part dans la foulée, vous les joueurs, est-ce que vous êtes au milieu de tout ça, est-ce qu'on vous demande de prendre parti, comment ça se passe?
Non, absolument pas, mais tu sais le conflit, hein, entre guillemets, une encore une fois, c'est pas un vrai conflit. Je pense que c'est beaucoup les gens autour qui en font aussi un peu. On aime bien monter les choses dans le sud. Hein. Chez nous, c'est comme ça. Mais de toute façon, en plus, cette histoire entre guillemets entre Daniel et André, elle dure depuis ad vitam aeternam. Hein. C'était
depuis
pas juste.
68.
Ouais, ouais. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui est vieux et qui est récurrent, mais qui ne touchait absolument pas les joueurs. Non.
Donc vous n'êtes pas concerné par cette histoire de fratrie Herrero, pas du tout?
Non, on n'est pas concerné par ça. Non. Enfin, moi, personnellement, non, et les autres, non.
Et donc la saison démarre, tu fais un peu de frigo. Au début, au milieu, comment ça se passe?
Au début, je fais du frigo au début.
Parce que t'es...
Ben parce que je pense qu'aussi je me mets pas non plus comme il faut dans le sens du groupe, peut-être aussi par rapport à la politique de Jean-Claude, donc je prends frigo, mais après tant ce que je suis, j'arrivais pas à me mettre avec Jean-Claude. Jean-Claude n'arrivait pas non plus à m'appréhender, à faire en sorte que, donc oui, je suis frigo et je le prends très très mal. Alors, on est plusieurs dans ce cas-là, hein. Il y a Bruno Monteros, il y a Jean-Christophe Repon, on est 3-4 où on a un peu de mal effectivement à se mettre dans le moule.
Ça dure combien de temps? Et surtout, quel va être l'élément qui va faire que vous allez être réintégré au groupe, que tu vas recommencer à rejouer? Qu'est-ce qui...
Je me souviens plus trop combien de temps ça dure. Ça dure un mois, deux, trois mois, je pense. C'est par intermittence, quoi. C'est voilà, un coup frigo, un coup on revient, un coup frigo, un coup on revient. Et puis après, je pense qu'on fait aussi ce qu'il faut sur le terrain pour montrer qu'on est quand même encore des bons joueurs de rugby. Et puis ça rentre doucement dans l'ordre.
Surtout quand ce début de saison, ça se passe mal, très mal pour Toulon. Vous êtes jusqu'à plus de la moitié de la saison, vous êtes au bord du gouffre, proche de la redescente. Voilà, comment toi, le joueur qui a connu pendant 10 ans quelques belles années, quelques belles épopées, comment est-ce que tu vis ça personnellement?
Très mal. On le vit. Moi, je le vis très mal. On est quelques-uns à le vivre très mal, surtout en se disant que notre club de cœur, on est en train de le mettre dans un état qui ne convient pas à ce club-là, et surtout ne se définir en n'étant pas les artisans d'une défaite, d'une descente, d'un traumatisme à Toulon, quoi. Donc c'était compliqué, ouais, c'était très dur.
À ce moment-là, dans ta tête, qu'est-ce qu'il se passe? On va se placer, je ne sais pas, en octobre, novembre, décembre, quand tu vois le club en train de chuter, toi qui es un peu mis de côté, tu as de la colère contre Jean-Claude, tu as de la colère contre toi-même, tu as de la colère contre les joueurs qui jouent à ce moment-là. Quels sont les sentiments qui se démêlent à ce moment-là?
C'est surtout de ouais, c'est la colère, mais elle est pas dirigée, je crois qu'en fin de compte, elle se dirige un peu dans tous les sens, et pas là où il faut, je crois. Je pense qu'en fin de compte, on n'arrive plus à appréhender notre jeu, on n'arrive plus à être nous-mêmes, à être ce qu'on a été, puisque je pense qu'on était quand même des bons joueurs, donc on n'arrivait plus à être des bons joueurs, quoi, tout simplement. Et on ne savait plus très bien comment se remettre dans le sens, dans le bon sens, dans le bon chemin. Et Et c'est parce qu'à un moment, on a eu une réunion tous ensemble qu'on s'est dit, oh là, attends, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. C'était individuel, ça ne pouvait plus l'être, il fallait que ça devienne collectif.
C'était où cette réunion, à l'initiative de qui? Qui a pris la parole?
Ouais, c'est un peu tous les anciens, hein, Le Grand, moi, on voit quelques anciens qui ont dit, ouais, là, ça ne va plus. Quoi. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible.
Ça ne se passe pas comme on l'imagine.
Après, les mots étaient certainement plus forts. Après, il y a tellement de temps qui ont passé. Mais la sensation générale, c'était ça. Quoi, c'était que, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi? C'est pas possible, on ne peut pas, c'est impossible. On se regarde, j'ai joué 10 ans, j'ai joué 15 ans, j'ai été champion, t'étais international. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui a changé dans notre club pour qu'on devienne ça? C'est qu'une question d'entraîneur? C'est qu'une question d'entraînement? Ça ne peut pas être ça, c'est pas possible. Donc voilà, il faut reprendre les choses en main.
C'était la mentalité. Alors peut-être à ce moment-là, c'était le groupe qui n'était pas assez déterminé, qui n'était pas prêt à faire les sacrifices?
Je crois que c'est un ensemble de beaucoup de choses. Quoi. Je crois que c'est un changement, effectivement. Quand je dis que moi j'avais du mal à appréhender, je crois que c'est un changement d'entraîneur et d'entraînement qui a fait aussi qu'on a certainement mis du temps à assimiler ou à se remettre dedans parce que c'était pas ce qu'on avait vécu pendant X temps. Et je crois que c'était par rapport à ça.
Dans le commerce, on dit qu'il faut laisser la chance au produit. Est-ce que vous aviez laissé la chance à Jean-Claude Balator avant qu'il débarque première semaine d'entraînement? Est-ce que vous n'étiez pas parti du principe que ça n'allait pas marcher à la base?
Non, moi personnellement non, parce que je ne le connaissais pas du tout. Enfin, je savais qui était Jean-Claude Balator, je connaissais le joueur qui avait été entraîneur à Nice, mais je ne savais pas du tout l'homme que c'était. Donc je n'avais pas du tout d'a priori par rapport à ça, ni moi ni les autres. Mais il était à l'opposé de ce qu'on avait vécu jusqu'à présent.
Donc c'est vraiment humainement que ça fonctionne pas au début?
Au départ, oui. Oui, franchement, oui.
Et finalement, donc les choses, il y a cette réunion où vous dites les choses comme on aime dire dans le rugby. Ouais. Quand tu fais oui d'un signe de la tête, ça veut dire que vous avez dit les choses de manière un peu véhémente? Comment tu...
On s'est dit les choses comme il fallait se les dire, comme on s'est toujours dit les choses. Jusqu'à présent, on n'avait pas besoin de se dire les choses parce que tout allait bien. Donc les discours étaient toujours plutôt bienveillants. Là, ça a été un peu plus dans le dur. Et puis surtout dans le dur envers nous-mêmes, quoi. Autant dire, bon, maintenant, c'est bon, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Et ça va pas, il y a un truc, voilà. Il faut arrêter de penser à ce qu'il y a eu avant, arrêter de penser à la venue de Jean-Claude qui en a perturbé certainement quelques-uns. Et maintenant, il faut se remettre à jouer au rugby. Voilà. Il faut redevenir des joueurs de Toulon.
Devenir un grand club, parce que c'est pas simplement parce qu'on porte le maillot qu'on est un grand club.
Non, ça c'est pas ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu porter ce maillot.
D'accord. Et du coup, il y a aussi cette... On évoque souvent ces deux générations, la génération des Delegue, Tesser, Orsoni qui débarquent, qui ont 18 ans, qui sont grosso modo, qui débarquent, pas du centre de formation à l'époque, mais qui débarquent des équipes jeunes. Vous, les vieux briscards qui avaient gagné le titre de 87, qui avaient fait des finales, qui avaient traversé le monde avec Daniel, comment se passe cette transition-là? Quel est le rôle des anciens? Est-ce que ça matche tout de suite entre vous? Ou est-ce qu'au contraire, il a fallu quand même pareil s'appréhender? On n'est pas la même génération, on n'a pas grandi
Non, ça a matché de suite. Mais en même temps, je pense que le rugby, le mien, celui que j'ai vécu, les jeunes, quand moi je suis arrivé, j'ai été un jeune, ont été de suite pris. Déjà, d'abord, il faut prouver sur le terrain ta valeur. Et après, une fois que tu as prouvé, que tu as montré que, tu es de suite pris sous l'aile des anciens. Et ça se matchait très bien, ça se passait très bien. Mais au contraire.
Alors, des générations, t'en as vu arriver, parce qu'il y a toujours des gens plus jeunes que toi dans une équipe. Ouais. Sauf que là, tu as 30 ans, tu vois des minots de 18 ans qui ont un talent certain, qui ont une vision du rugby qui n'est pas exactement celle qu'on vous avait inculquée jusqu'à présent. Comment se passe, au-delà de la transition humaine, techniquement, tactiquement?
Ça se passe bien, mais après, en même temps, il arrive une génération de jeunes qui ont du talent, qui ont beaucoup de talent. D'ailleurs, sinon, ils n'auraient pas été là, ils n'auraient pas fait les carrières qu'ils ont fait. Mais... si tu veux, comme je disais, nous on a eu des joueurs en 87 et avant et après, où devant et derrière on était capable de jouer, et des mecs comme Carbo, des mecs comme Labianque, comme Gallion, comme Lacoste, comme Trémouille, et j'en passe, des Gels et toute la bande. du talent, on a toujours été capable de jouer au rugby. Ce qui s'est passé là, sur cette année-là particulière, c'est que tout notre rugby, il était perdu, quoi. On l'avait perdu, on avait tout perdu, aussi bien devant que derrière, puisqu'on perdait les matchs et qu'on était derrière. Donc c'est même pas une question de génération qui arrive avec autre chose. Non, c'est que nous, on savait plus jouer.
Et alors, donc il y a cette réunion, mais qu'est-ce qui déclenche vraiment ? Est-ce que c'est le moment où vous voyez le club être à deux doigts de toucher le fond ? Ou qui vous permet de relancer, qu'est-ce qui relance la machine? C'est cette réunion
c'est franchement de se dire, on ne peut pas être les artisans de la descente de Toulon, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit, puis on doit passer à ce club, on a eu d'autres choses, ce club, au club. Et quand je dis, nous à l'époque, quand on disait club, c'était le club et les supporters. Quand on parlait du club et la ville et la région. C'est-à-dire, bon, on n'allait pas jusqu'à la région parce qu'on n'avait pas ça en tête, mais si tu veux, c'était surtout les gens qui venaient. Quand on parlait du club, c'était ceux qui composaient le club, les forces vives, c'est-à-dire tous les supporters, ceux qui travaillaient pour le club, la ville de Toulon en particulier. Et c'est vrai qu'on s'est dit, non, c'est pas possible. On peut pas, pour eux, on peut pas faire ça.
Le soir, quand tu rentres chez toi, t'es énervé, en colère, ça te ronge, ou alors t'arrives à couper quand même, ou vraiment t'as que ça en tête à
ce moment-là ? Non, ça te ronge. Non, ça te ronge. Tu rentres à la maison, t'es... Je pense que les femmes ont dû être contentes de ce passage. Non, ça rongeait. Tu disais, non, c'est pas, on peut pas. Parce que c'est notre vie. Le rugby, ça a été notre vie, notre passion, Toulon, et quand ça marchait, on marchait sur les étoiles, et puis quand ça allait pas, on était en enfer. Hein. Ça rongeait.
Il y a finalement ce match contre Aurillac, qui grosso modo détermine la descente du RCT ou sa place en phase finale. Mmh. Est-ce que tu vois le club descendre un moment ?
Alors franchement, non. Non, alors c'est pas pour faire un jeu à Aurillac, hein. Mais parce qu'on prend Aurillac, et je me dis, c'est pas possible. Aurillac, ils étaient là, ils avaient leur place, mais notre histoire, c'est pas celle d'Aurillac, donc tu peux pas perdre contre Aurillac, c'est pas possible. Non, voilà, on ne pouvait pas imaginer.
Qu'est-ce qu'il se passe dans le vestiaire ? Est-ce que tu en as un souvenir ? C'est Eric Chambre qui nous disait, moi je me rappelle de où étaient les personnes, où étaient les serviettes, où étaient les coachs, où était le président. Est-ce que toi tu as un souvenir précis de ce match-là ?
Non, moi j'ai absolument pas le souvenir des vestiaires d'Aurillac.
Et alors, est-ce que
par contre, j'ai le souvenir du repas avant Aurillac. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est le souvenir de où on était placé. J'ai le souvenir que même, c'est un truc de, ça peut paraître aberrant. Il y en a un qui a sorti une blague, il y en a un qui a capité dedans, et on a eu un fou rire, mais quoi, 3 heures avant le match, quoi.
Alors que c'était le match qui pouvait déterminer.
C'était le match qui pouvait nous, mais on a eu un fou rire. Alors. Je pense que ce fou rire était lié à la pression. C'est un fou rire nerveux, mais on n'arrivait pas à s'arrêter.
C'était quoi comme blague, tu t'en souviens ?
C'est une connerie. Ouais, une connerie. Je crois que c'est attends que je me rappelle l'histoire. Je crois que c'est la mère de Toto. Ou une connerie comme ça, à 3 fils.
Pim pam et poum.
Ouais, voilà.
Et voilà.
Et t'en as une qui a pité plein fer dedans. Et là, ça nous a fait mourir de rire. Et alors qu'effectivement, on jouait la survie, mais je crois que c'est. Comme ça peut t'arriver un enterrement où d'un coup t'es pris une crise de fou rire, mais c'est pas le truc, c'est pas ce qui se passe, c'est comme ça.
Peut-être qu'à ce moment-là tu te dis, ok, ce groupe, malgré tout ce qu'il a vécu depuis le début de saison, il est quand même soudé, parce que pour rigoler à 3 heures d'un match.
Oui, non, mais
tu t'es dit, bon, il peut rien nous arriver, peut-être.
Soudé, on savait qu'on était soudé, hein, puisque on l'avait démontré par le passé. Hein. Les résultats effectivement n'étaient pas là, mais nous, entre nous, on savait ce qu'on était capable de faire. Puis on savait, quand tu regardes, et puis à un moment, quand on est assis, qu'on mange, je regarde les mecs et je me dis, là, c'est pas possible. C'est les mêmes qu'il y a 2 ans, on basculait tout le monde, on était capable de. En 2 ans, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, de pire. Donc tu te dis, non, ça va passer.
À ce moment-là, alors c'est difficile d'avoir des souvenirs précis, mais dans les vestiaires, ce jour, alors pas ce jour-là, mais sur cette période, est-ce que tu prends la parole ? Est-ce que tu parles aux jeunes ? Est-ce que tu étais plutôt du genre à rester dans ton coin, à te motiver tout seul ? Comment ça se passe à ce moment-là, sachant que tu fais partie des anciens qui ont connu les années glorieuses ?
Oui, de temps en temps, mais c'est pas tant dans les vestiaires où c'est un petit mot, c'est surtout dans les semaines d'entraînement, dans les où en fin de compte, c'est là que tu emmagasines et que tu passes les bonnes ondes, les bons mots. Parce que dans un vestiaire, même si tu prends un peu la parole, chacun est quand même dans son monde. Donc les paroles, elles arrivent, mais t'entends un bruit, t'entends un mot, t'entends un truc, mais tu es dans ton truc. C'est des gestes, Mais par contre, les semaines, qui, et après les, alors il y a les semaines et après les matchs qui sont aussi hyper importants, parce que c'est en fin de compte, c'est là où tu es plus à même d'entendre les choses. Quand tu as fait un match, quand tu as fini le match, il est bien présent dans ta tête. Donc quand tu parles du match, si tu as quelque chose à dire sur un point précis, ouais, c'est encore vivant, quoi. C'est encore là, c'est là. Donc tu le prends mieux, et surtout tu le captes vite. Et après, dans la semaine, pour le match qui est fini, c'est une chose. Mais après le match qui va arriver, ben c'est pareil. C'est là où tu reprends les informations, où tu te les réappropries, où tu fais passer des messages. Et c'est effectivement dans ces moments-là, c'est dans la semaine que tu prépares ton match. C'est pas dans le vestiaire, c'est pas une heure avant. Non, c'est dans la semaine que tu prépares le match. Donc ça se passait comme ça.
Finalement, victoire. Le club est maintenu et se lance dans des phases finales qui, on le saura plus tard, mais vont marquer l'histoire du club. Est-ce que le rôle à ce moment-là de Jean-Claude a évolué ? Est-ce qu'il y a eu la paix des braves ? On s'est dit, bon, allez, pour l'intérêt du club, on se doit de tous aller de l'avant. Est-ce que non, finalement, vous avez pris le truc entre joueurs ? Comment ça se passe ?
Eh bien, écoute, c'est... Ouais, en même temps, il y a eu la paix des braves, puisque je crois qu'il y a eu un cessez-le-feu, on va dire. Hein. Il y a eu un cessez-le-feu entre, même si ouais, c'est un peu exagéré, cessez-le-feu entre ce qui se passe en ce moment à l'Ukraine.
Le mot est moyen. On voit l'image.
Disons que voilà. Et puis les joueurs, comme je t'ai dit, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas. Donc effectivement, ben, quand on dit on a pris les choses en main, c'est qu'on est redevenu des ce qu'on était, quoi, des plutôt pas mauvais joueur de rugby. Donc oui, on a repris les choses un petit peu en main. Ouais.
C'est une question de rugby ou c'est une question de guerrier sur le terrain qui a basculé ? On s'est dit on va se refaire des passes, on va ça, ou on veut plus se faire marcher dessus dans les rucks, on veut plus...
Non, c'est un peu tout. Mais de toute façon, le rugby demande du combat. Si t'es pas présent au combat, t'es pas présent en jeu. Hein. Je connais aucune équipe de rugby qui arrive en haut si devant ils mettent pas les ingrédients. Hein. Donc c'est un ensemble, hein. le rugby ne peut pas se passer de passe et ne peut pas se passer de guerre. Hein. Donc on a remis les choses bien en place et on a refait ce qu'on était capable de faire. Ça a montré que ça vous a mené.
Justement, au début, tu apprends mal du moins le rôle de Jean-Claude ou son management. Est-ce qu'au fur et à mesure des mois, tu t'es dit, bon, je suis pas d'accord sur tout, mais ok, je vois où il veut en venir.
Oui, non, mais bien sûr, je crois que tout le monde, ceux qui étaient plus... Oui, on s'est dit effectivement... Enfin, moi, je me suis dit, oui, bon, après, il y a quelque chose qui est le plus important, c'est le club. Et puis effectivement, bon, je commençais à comprendre et à concevoir un peu où ils voulaient en venir. Et puis après, les choses les plus importantes, c'était le club. Donc, il fallait, voilà, un mouchoir sur tout et on rattaque.
C'est ça aussi qui est important dans le rôle des anciens, je mets des grandes guillemets. Mais le rôle des anciens, c'est aussi de savoir dire, ça dépasse l'équipe actuellement qui est sur le terrain, c'est l'histoire de
toute... C'est l'histoire du club. On est les artisans d'une histoire. On a repris un sac que des gars ont porté bien avant nous. Le jour où on le laisse, il faut que ceux qui le prennent, ils aient aussi la même envie, le même bonheur et le même plaisir à le prendre. Et pour ça, il faut quand même que le chemin il soit beau. Sinon, c'est pas intéressant.
Cette paix entre... Alors déjà, j'allais dire entre les anciens, mais non, entre toi, est-ce qu'il y avait d'autres joueurs qui faisaient partie des Bruno Moteros dont tu parlais ? Qui est-ce qui a décidé de faire la paix ? Et comment ça s'est passé ? C'était une discussion ? C'était au fur et à mesure des semaines ? On s'est rien dit ?
Non, on s'est rien dit. C'est revenu naturellement. Je pense qu'on est des mecs assez intelligents. Jean-Claude est un garçon intelligent aussi, donc on a compris, qu'à un moment, voilà, on partait sur des chemins qui ne pouvaient que nous faire du mal et que c'était pas la peine et du mal à nous en tant qu'hommes, entre guillemets, et puis au club, quoi. Donc non, il fallait revenir sur les choses plus normales.
On reprend le fil de l'histoire. Donc il y a ce match à Aurillac, vous êtes maintenu. Est-ce que c'est à partir de là que tu te dis J'ai mon petit doigt qui me dit qu'on peut faire quelque chose cette saison, ou tu le comprends même pas du tout à ce moment-là? Tu te dis, bon, on va voir où ça nous mène.
Non, quand on est maintenu, on se dit qu'on est maintenu.
Il y a un soulagement quand même.
C'est un vrai soulagement. C'est un vrai soulagement qui se met, quoi, qui se met en place. C'est pas, on n'avait pas non, à se dire, non, là, franchement, le fait de. C'est un gros ouf. C'est un gros ouf de soulagement. Voilà, on a fait un petit truc. Voilà, c'était que ça. Là, franchement, ce match-là, c'est...
Et quand est-ce que tu comprends que cette histoire, elle va devenir plus belle que vous ne pouviez l'imaginer? Peut-être que tu t'attendais à terminer la saison quelques semaines plus tard. Et en fait, bah, les matchs s'enchaînent, vous gagnez. À quel moment tu comprends que ce groupe, bah, il a peut-être un supplément d'âme qui va l'emmener très très loin?
Effectivement, c'est au fur et à mesure des matchs. C'est il y a pas une comment dire, c'est crescendo. Il y a pas un moment particulier où tu dis waouh, boum, ça y est, c'est bon. Non, c'est au fur et à mesure du passage des matchs. On est passé là, et l'autre
on peut aller accrocher.
On peut. Et puis voilà, comme ça, ça s'est fait comme ça, quoi. C'est monté en pression doucement. Je pense que notre jeu, il est monté aussi. Et qu'on s'est dit que voilà. Et puis après, bon, après le match Tarbes, oui, là ça
bascule.
Ouais.
Quel est le rôle des joueurs qui ont déjà connu des phases finales, que ce soit toi, que ce soit Eric, ben voilà, tous les mecs qui ont déjà vécu, qui ont déjà gagné, qui ont déjà perdu en finale, dans les phases finales? Est-ce que vous parlez aux jeunes? Est-ce que vous leur dites, alors là, ça va se passer comme ça? Comment vous le...
Non, si tu veux, c'est surtout essayer de garder l'énergie et l'influx pour les matchs et ne pas s'éparpiller
dans la semaine
à plein de choses, parce que tu sais bien qu'ici à Toulon, dès que tu arrives les phases finales, c'est fini, quoi. La ville, elle est en folie, et tu vas acheter ton pain, t'en as 30 qui te tapent sur l'épaule, qui te disent. Donc il faut essayer de l'emmagasiner, parce que ça te donne de la force, et qu'effectivement c'est plutôt j'allais dire un terme, je vais l'éviter. Non, mais c'est plutôt valorisant quand tu sors dans la rue, qu'il y a tout ça. Mais ça, il faut faire attention, que ça peut te piquer de l'influx, ça peut te fatiguer, ça peut te mettre peut-être un peu le cigare aussi, un peu ouais, là où il faut pas. Donc c'est surtout leur expliquer ça, les gars. Attention, le match c'est dimanche, c'est pas demain, c'est pas après-demain, non, le match c'est le dimanche. Donc on prend, on engage, on essaie le maximum de rester à la piole, tranquille, on se retrouve aux entraînements, on se boit un petit coup tranquille, on se fait une petite gamelle, mais évitons au maximum de nous éparpiller.
T'as des joueurs face à toi, alors tu dis ça avec beaucoup de maturité à l'époque, mais t'as des joueurs face à toi qui ont 18 ans, ton ouvreur a 18 ans, ton arrière a 18 ans, t'as des joueurs qui sont très jeunes aussi.
Ouais.
Est-ce que le message est reçu 5 sur 5 à ce moment-là? Est-ce qu'ils le comprennent?
Ouais, mais à l'époque, ils écoutaient. Maintenant, ils n'écouteraient plus, mais à l'époque, ils écoutaient. je pense qu'ils l'ont reçu. D'ailleurs, la preuve, regarde, sinon, je pense qu'on ne serait pas arrivé là. On n'aurait pas été champion si à un moment, il y en avait quelqu'un qui s'était éparpillé. Ou non. Je crois qu'ils avaient compris le message. Et puis en même temps, on venait de tellement loin que tu te disais, bon, ce qui est à prendre, on le prend. Faisons tout pour en prendre au maximum. Et ne partons pas dans des dérives qui auraient été catastrophiques.
Est-ce que tu penses que les adversaires qui croisent Toulon à ce moment-là, donc le Toulon qui était à un mois auparavant, qui était en train de descendre et qui finalement se sauve à la limite, est-ce que tu penses que les adversaires se disent il n'y a pas grand-chose qui va les arrêter, ceux-là, va falloir qu'on se méfie, et bon, finalement vous gagnez, mais est-ce qu'il y a cette crainte chez l'adversaire?
Je ne suis pas certain. Le crainte, non, c'est pas le terme. Je ne pense pas que les adversaires aient la crainte. Se poser des questions, certainement, se dire, bon, ils sortent de... Et puis on sait qu'on connaît Toulon. En plus, si on est blessé, on n'est pas sympa, on n'est pas agréable. Donc on a été un peu une bête blessée, et effectivement, on commençait à reprendre un peu des couleurs. Et la crainte, non, mais se dire, bon, ils ne vont pas être faciles à manœuvrer, ça va être compliqué. Mais la crainte, non. Mais bon, après... Tant pis pour eux.
Ce que ça a mené, voilà, il fallait peut-être vous craindre un peu plus à ce moment-là.
Oui, mais même si je pense que si vous avez craint un peu plus, c'était pareil, je crois, cette année-là.
Est-ce que, donc tu vois la chose grandir, grossir, est-ce que tu imagines que ça peut vous mener au Brennus quand tu vois la ville? Donc toi, t'avais connu 87 notamment, t'avais vu l'évolution un peu des quelques mois qui ont précédé. Est-ce que tu te dis à ce moment-là, il y a des similitudes?
Sur la fin, oui. Sur la ville, oui. Sur l'engouement, sur ce qui commençait à se dégager de la ville, oui, effectivement. Mais après, pas dans l'équipe, parce que si tu veux, en 87, je vais dire un truc, ça peut paraître bizarre, mais on était programmé pour ça, quoi. En 87, on était champion. Il fallait qu'on soit champion. Pour nous, on était champion. Il fallait à tout prix qu'on soit champion. D'ailleurs, si on n'avait pas été, ça aurait été une catastrophe, parce que je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient.
C'est trop programmé.
Ouais, on était programmé vraiment pour être champion de France. Donc, on n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Alors, on était à la limite, si tu veux, en 87, on est une équipe où on bombe le torse, on regarde tout le monde droit dans les yeux et on dit on va vous charcler tous. En 92, non. En 92, on se sort, on est content. On a toujours le torse bombé parce qu'on est comme ça, parce qu'on est toulonnais, mais on n'a pas cette même certitude ancrée au fond de nous-mêmes. Elle se développe au fur et à mesure des matchs, mais on l'a pas en nous comme ça. C'est pas vrai, elle se développe. Donc c'est pas la même chose. Sur la ville, oui, parce que la ville, elle prend feu pareil, mais sur l'équipe, c'est pas du tout la même chose.
Tu passes le match contre Tarbes, je crois que c'est Castres en demi-finale, et finalement vous arrivez contre Biarritz, le jubilé, le banzai remis par Patrice Tessera à Serge Blanco, voilà tout cet événement. Et toi, comment tu vis ce match-là, sachant qu'il y a un événement quand même qu'il faut appréhender à ce moment-là, c'est que vous êtes privé de votre capitaine, Eric Champ.
On est privé depuis quasiment toutes les phases finales, puisqu'on fait un match contre Agen où on se bat sur la cendrée et le grand est expulsé. Ouais, donc,
Alors toi, tu perds un comparse de troisième ligne, mais tu perds aussi probablement un ami à ce moment-là.
Ah oui, oui.
Comment vous vivez ces phases finales sans Eric ?
Ben, on ne les vit pas sans Eric, en vérité. Hein. À part sur le terrain, sinon le grand, il était avec nous tout le temps. Donc on ne l'a pas vécu sans lui, on l'a vécu avec lui, on l'a vécu pour lui. C'était, si tu veux, à part le fait des 80 minutes où il ne pouvait pas être avec nous, mais après, il était avec nous dans nos têtes tout le long. Donc, c'est triste en tant que joueur de ne pas participer à des choses, à des fêtes pareilles, ça c'est une certitude. Moi, en 89, j'étais blessé, j'ai vécu, mais dans la tête de nous tous, le grand, il était là, quoi. C'était notre capitaine.
Ça demeurait le capitaine. Il parlait dans la semaine. Il s'entraînait comme s'il allait jouer le week-end.
Ouais, oui, sûr. Ouais, il était avec nous. Il était avec nous. Ouais, c'était comme ça.
Est-ce que ça change malgré tout quelque chose, le fait qu'il ne soit pas sur le terrain ? Alors, t'es une génération. T'es à Lopi à l'époque qui prend la suite de Eric Champ sur ces phases finales. Mais en termes de repères, toi, ça fait 10 ans que tu joues avec lui à des postes qui sont très proches sur le terrain. Est-ce que ça te change vraiment quelque chose dans le rugby, ou finalement vous avez appris à faire sans puisqu'il n'était pas là ?
Ben, on a appris à faire sans parce qu'il n'était pas là, et puis en même temps, tu es obligé de faire parce que d'abord t'es un joueur, et puis si un des tiens est blessé ou ne joue pas ou ne joue plus, tu es obligé de, tu dois continuer ton truc. Il y a des repères qui sont différents avec le Grand Pignon ou avec le Blacky, mais après au fur et à mesure du temps, j'ai pris les repères avec le Blacky, comme le Blacky après avec moi, comme j'ai pris avec le Grand Pignon. Quand tu as joué longtemps et que tu es pas trop mauvais, les repères se reprennent vite. Si avec toi t'as des joueurs de qualité aussi, t'as que des joueurs de qualité, donc ça se repère vite. Mais non après.
Est-ce que malgré tout, ça vous rajoute un supplément d'âme de vous dire, bon, alors il y en a d'autres des blessés à ce moment-là, il y a d'autres mecs qui ne vont pas pouvoir finir la saison, mais c'est votre capitaine. Est-ce qu'il y a ce supplément d'âme de se dire, pour lui, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, ou bon, vous êtes une équipe de haut niveau et vous devez déjà vous concentrer sur le rugby ?
Non, on a toujours eu des ressorts. Notre rugby à nous, autant qu'on on est quand même des bons joueurs de rugby, je pense qu'on était des bons joueurs de rugby, mais on avait plaisir à avoir des ressorts aussi. Parce que nous, on était vraiment dans un groupe de mecs où qu'on s'aimait et qu'on s'aime encore, puisqu'on fait encore des choses tous ensemble. Donc, et on avait, c'était presque un plaisir et un bonheur de se mettre des ressorts comme ça. Pour le grand, pour notre ville, pour nos supporters, tous ces trucs. Quand on pensait au gars qui faisait un crédit pour monter sur Paris pour aller voir la finale, tu vois, tous ces trucs-là, chez nous, ça a toujours tenu une place importante. Au-delà du fait de nous préparer sportivement, tout ça, mentalement, tout ça, ça a toujours tenu quelque chose. Et effectivement, ça fait partie de notre exercice de rugby.
Finalement, trois coups de sifflet, coup de sifflet final, l'arbitre, ça y est, c'est fait. Toulon est champion de France 1992, 5 ans après le titre de 87. Qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu as un souvenir des quelques images qui ont suivi?
Je crois que je crie au milieu de la du stade. Je crois que je crie et
c'est du soulagement, de la libération,
c'est du soulagement, de la rage, plein de choses, du bonheur, on part tellement loin, tu fais un 100 mètres, on a fait un 100 mètres avec Carl Lewis et on a gagné, quoi. Tu t'y attends jamais. Quand t'as pris le départ et que tu as vu les premiers mètres de ton championnat, tu croirais jamais que tu vas franchir la ligne d'arrivée en premier, c'est pas possible. Et puis on l'a fait, donc je crois que c'est un an de questions, de pas bon, de remise en question de tout, qui font que à la sortie tu gagnes là, mais tu montes au ciel.
En termes d'émotions, dans le panel d'émotions, est-ce que c'est celle où tu en as le plus connu finalement, parce que vous avez été très bas, vous avez été très haut, vous avez été très moyen par moment, est-ce que c'est le moment où tu as vécu le plus d'émotions?
Non, tu sais, je crois que moi, les émotions au rugby, je les ai connues toute ma vie. De toute façon, à partir du moment où ça va peut-être paraître bizarre, mais moi, à partir du moment où je mettais le maillot, je mettais le short, les crampons, et que je rentrais sur un terrain, les émotions, elles étaient là, quoi. À partir du moment où j'allais m'entraîner, les émotions, elles étaient là. À partir du moment... Et le jour où j'ai arrêté de rugby, il n'y avait plus ces émotions. Donc, toutes ces émotions-là, elles ne sont que dans le rugby. Et quel que soit les matchs que tu fais, c'est ça. Effectivement, il y a une cerise sur le gâteau parce que c'est la finale, mais c'est la cerise sur le gâteau que tu vis avec tes amis et que ad vitam aeternam tu en parles et tu es lié tout le temps par rapport à ça. Mais des émotions au rugby, c'est un sport que je crois qui donne plein d'émotions.
Alors à ce moment-là, vous allez chercher le bouclier tous ensemble. Alors tous ensemble, on a eu des infos, je ne donnerai pas son nom et ce n'est pas du tout Patrice Tesser, mais qui nous a dit, voilà, à ce moment-là, moi je me retourne, je prends Yann dans les bras, on est amis, machin, on célèbre. Et en fait, le temps qu'on se retourne, tous les mecs étaient en train de soulever le bouclier. Voilà, toi tu faisais partie de ces mecs qui ont soulevé le bouclier à ce moment-là, directement, qui est monté.
On a d'abord resté un petit peu en bas, effectivement, on s'est embrassé, machin, puis après il y a un protocole. Je suis monté avec les autres parce que c'est comme ça, quoi, ça se fait. Ouais. Mais après, Patrice et Yann, je crois qu'ils n'avaient plus de canne, c'est pour ça qu'ils sont restés un peu en bas.
Ils sont restés sur la pelouse se reposer. Finalement, vous rentrez à Toulon. Donc là, vous êtes les nouveaux héros. Il y avait eu des héros il y a 5 ans, vous êtes les nouveaux héros. Comment tu vis ça? Comment tu vois la ville exploser? Tu vois la ville en fusion? Vous arrivez ailleurs? Vous arrivez par le port?
Ouais, c'est ça.
Semble, voilà. Comment c'est tu ça. Vis un peu ce retour sur la rade?
On vit le retour sur la rade comme on avait vécu, c'est-à-dire je crois que c'est 15 jours ou 3 semaines
de bringue,
on va dire. Mais pas loin d'un mois, ouais, effectivement, où tu te dis comment je vais faire pour reprendre le rugby un jour. c'est l'apothéose. Quand on arrive ici, là, à Toulon, là, qu'il y a tout ce monde-là, c'est extraordinaire.
Est-ce qu'en fin de saison, tu as eu l'occasion d'en rediscuter de tout ça avec Jean-Claude sur cette saison-là? De ce qui s'était passé avant, de ce qui s'était passé au milieu, de où ça vous a mené?
Oui, on en a discuté, mais après, il n'y a plus eu de... avec maintenant Jean-Claude, oui, on en a discuté parce que à un moment, moi, je, comme lui, les choses, il faut qu'on se dise, et il n'y a pas eu de... c'est comme ça, on est parti, des fois ça arrive dans la vie. Tu pars sur mauvais truc et puis c'est pas grave. Et puis tu t'y retrouves et puis l'histoire elle est belle à la sortie. Donc tu te dis, voilà. En fin de compte, peut-être qu'il fallait ça aussi pour que ce soit beau. On n'en sait rien.
On parle souvent du lien, donc des joueurs qui ont connu l'avant et qui ont connu le pendant. Est-ce que selon toi, une question à 100 000 euros, est-ce qu'il y aurait eu...
100 000
À 100 000, un peu, allez, 50 000. Est-ce qu'il y aurait eu 92 s'il n'y avait pas eu 87?
Alors là, écoute... celle-là de question, c'est vrai qu'elle vous dessous. Je sais pas. Alors, peut-être que... franchement, j'ai du mal à te répondre à cette question. Peut-être sur la fin. Sur la fin de la saison, quand effectivement qu'on gagne et qu'on commence un peu à montrer le bout du nez, et qu'on connaissait comment ça se passait, comment ça s'était passé, et qu'on a pu... se préparer entre guillemets comme on savait qu'il fallait se préparer puisqu'on avait fait quand même 4 essais puis quelques 2-3 finales quand même au passage. Donc oui, peut-être que j'avais pas eu 87, j'aurais pas eu 92, mais j'en suis pas non plus entièrement convaincu. Non, franchement non.
Merci Thierry. Est-ce qu'il y a une anecdote peut-être que tu as envie de rajouter, une chose que tu aimerais rajouter sur ce titre que vous avez vécu mais il y a maintenant 30 ans?
Écoute, non, des anecdotes, non. Ben, après, ça revient au fur et à mesure. C'est quand on les pose des questions, des fois, ça
revient quand vous en discutez entre après, vous, surtout.
Je crois que ça revient. Et puis, il y a des choses qu'on ne dit qu'entre nous. Nous sommes désolés, messieurs.
Il y a vraiment des choses qui ne sortiront jamais, tu crois, de cette saison-là, notamment?
Oui, mais comme de toutes les saisons. Il n'y a pas que cette saison. Il y a des choses qui restent, qui sont dans les vestiaires et qui resteront dans les vestiaires à vie. Ad vitam aeternam, comme on dit.
Merci Thierry.
Merci à toi.
On se donne rendez-vous dans 10 ans?
Eh ben écoute, pourquoi pas.
Avec plaisir.
Avec plaisir.
Ben, ça va. Merci à toi.
Rugby Club Toulonnais 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable.
Cette victoire à laquelle personne ne croyait, celle des genoux de l'Université de Besagne.
Avec Thierry Louvet, l'Indien de la Rade, le lien entre les générations.
J'imagine que ça doit être du délire sous la Rade.
Un épisode chaque vendredi pendant 10 semaines. Un podcast de la rédaction des sports de Varmatin, Fabrice Michelier, Pierrick Illic-Ruffinati, Olivier Buisson, avec Sonia Bonin.